Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Antoine Garapon rencontre Stéphane Breyer. Ce soir, la Cour suprême.
Bonsoir Stephen Breyer.
Ah, bonsoir, bonsoir.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juge à la Cour suprême des États-Unis et hier soir, vous nous disiez que la Constitution, c'est les lumières européennes figées. C'est pas tellement figé, la Cour suprême, parce qu'au contraire, on a l'impression qu'elle a fait un travail incroyable sur la société américaine en deux siècles, depuis deux siècles qu'elle existe.
Oui. C'est parce que les valeurs des Lumières et les valeurs de la France, de l'Angleterre, parce qu'il y avait des Lumières d'Écosse, par
Bien
exemple,
sûr.
Et aussi des États-Unis, sont des valeurs. Les valeurs, les vraies valeurs du fond ne changent pas trop, mais leur application change tous les jours.
Parce que la société parce que change.
Oui, exactement. Exactement. Nous habitons un monde qui change tous les 5 secondes. Et la question pour la Cour suprême, pour nous et pour les magistrats de France et n'importe qui en France ou aux États-Unis, comment est-ce qu'on va appliquer, par exemple, la liberté d'expression quand il est écrit ces mots dans la Constitution? On n'abrège pas la liberté d'expression. Ou le commerce. Expression, il n'y avait pas une télévision pour George Washington. ni
Internet.
ni les avions. Mais comment est-ce qu'on va appliquer cette valeur, liberté d'expression, dans un monde où il est possible pour la presse, par exemple, ou pour l'État, d'envahir dans le nom d'expression la vie privée des personnes. Et ça, c'est toujours des questions comme ça qui arrivent. Pas toujours, mais souvent. Et comment on va équilibrer ces deux? Parce que les grandes questions de droit constitutionnel, ne sont pas des questions du bien contre le mal. Ils sont des questions du bien contre le bien. Les deux valeurs sont en conflit, les deux sont bien. Et comment résoudre ces conflits entre, par exemple, la protection de la vie privée et la liberté d'expression?
Et on a l'impression que la réponse de la Cour suprême va évoluer en même temps qu'une partie de la Cour suprême voudrait en rester à une interprétation littérale. C'est une constitution du 17e, du 18e siècle, elle doit rester au 18e siècle, on doit rester dans la volonté des pères fondateurs. Il y a un débat à l'intérieur de la Cour suprême entre ces deux tendances.
Il y a un débat. Et quand je prononce un discours, je reçois des questions des étudiantes de droit, ou des étudiants d'université, je sais, parce que je sais ce qu'ils pensent, et je dis ce que vous pensez vraiment, et que la Cour suprême, ils sont des politiciens, ils sont des hommes de politique manqués, ils sont des hommes de politique d'une variété un peu inférieure. Et je dis, je sais que vous pensiez cela. Je le sais parce que ça, c'est l'impression donnée par les journaux, par ce que vous lisez. Mais ce n'est pas vrai. C'est que, et je ne veux pas être défensif, mais je dis pourquoi est-ce que la Cour suprême a le pouvoir d'annuler une loi promulguée par le Congrès. Après tout, nous sommes une démocratie. Et les électeurs ont décidé que c'est eux et pas les juges qui vont trancher, décider les affaires, les divisions graves, les différences d'avis. Je répète ce qu'ils savent déjà, que Hamilton et les autres fondateurs ont décidé qu'il faut avoir quelqu'un dans le gouvernement pour contrôler les autres. Pourquoi? Parce que s'il n'y a personne, on peut exhiber cette constitution dans un musée. Excellent, très belle, mais sans effet pratique. Mais qui? Le président? Si c'est le président, il va être un roi trop puissant. Il va dire n'importe qui qu'il fait, c'est constitutionnel. Mais le Congrès? Le Congrès, ils sont les parlementaires, ils sont élus. Et il dit ça dans le Fédéraliste 56, dans cette pamphlet. Il dit exactement ceci. Il dit, pourquoi pas le Congrès? Parce que le Congrès, ils sont des experts sur la popularité. Vraiment. Mais ce document, la Constitution, est écrit pour la personne le moins populaire des États-Unis, il a exactement le même droit que la personne la plus populaire. Il n'y a pas de différence
en
popularité.
C'est ça.
Donc, c'est très bien, ça va marcher parfaitement si la décision est populaire. Si un même membre de Congrès qui est expert dans la popularité, parce que sinon, il n'est pas membre de Congrès, il doit décider quelque chose qui n'est pas populaire, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Hamilton a dit non. Pas le Congrès, donc nous avons des juges. Des juges, quel avantage? Ils sont gris. Personne ne les connaît. Parfait. Ils n'ont pas des armes. Ils n'ont pas une milice. Ils n'ont pas le pouvoir de bourse, de ça.
Ni la bourse, ni l'épée.
Oui, exactement, c'est ça. Ni la grève, ni la bourse. Très bien. Ils sont faibles, ils sont inconnus, ils sont des juges et ceci a quelque chose à faire avec le droit. Parfait, parfait. Oui, peut-être, mais les juges aussi, ils ont des défauts. Mais c'était faute de mieux. C'était faute de mieux que les juges reçoivent ce pouvoir. Et je dis aux étudiants, pour revenir à votre question, j'ai dit aux étudiants, mais si c'est une question de politique, pourquoi ne pas avoir les vrais politiciens? Le Congrès tranche l'affaire. Non. Et depuis, il y a toujours, parce que la nomination est faite par le président et confirmée par le Congrès, il y a toujours un aspect politique. Mais c'est une mauvaise politique aux États-Unis de nommer quelqu'un qui n'est pas qualifié. On espère. Après, on est juge. On est juge. Et il n'y a pas un avantage d'être politique. Je reviens. Vous voyez, c'est une longue route. Je suis désolé, mais c'est une longue route. Donc, nous ne sommes pas des politiciens. Mais quoi? Est-ce que vous êtes des idéologues? Non. Si je pense que je tranche quelque chose ou je décide quelque chose parce que je suis Adam Smith ou Turgot physiocrate, ou maoïste, non, j'ai tort. Mais on a des différences à cause de... Où est-ce que... J'étais né à San Francisco, j'ai expliqué tout ça, j'ai mené la vie que j'ai menée. Et par l'âge, par un certain âge, n'importe qui dans une profession a des points de vue sur des choses du fond, des points de vue sur les choses philosophiques. Et avec plusieurs juges nommés par des présidents différents, on peut avoir des différences philosophiques. Mais c'est philosophique. Et même les juges nommés, souvent, ils font des grandes surprises au président.
Oui,
ils décident le contraire à ce qu'il espère. Mais les grandes différences sont ceux que vous nommez.
Mais c'est ça, parce que Stephen Breyer, vous êtes juge. La différence du juge aussi par rapport au sénateur ou par rapport au président, c'est qu'il faut qu'il s'explique en raison. Il faut qu'il argumente, il faut qu'il motive, il faut qu'il rédige des jugements.
Exactement, c'est ça. J'essaie à expliquer cela, exactement ce que vous avez dit.
Mais ce qui est intéressant aussi dans un livre que vous avez publié, qui a été traduit en français, qui est appelé « La Cour suprême, l'Amérique et son histoire », parce qu'il y a un peu une contradiction dans ce que vous dites. Vous dites les juges ne sont pas populaires, alors ils ne cherchent pas l'adhésion, la ratification du public, mais en même temps, il faut qu'on fasse confiance à cette cour. Et ce n'était pas gagné, passez-moi l'expression, au début de la République américaine, au début de la naissance des États-Unis. Qui va croire la Cour suprême? Est-ce qu'on va respecter ces décrets? Est-ce qu'on va lui faire confiance? Ça, c'est toute l'histoire de la Cour suprême.
Oui, je l'explique. Je reçois des questions exactement comme ça, comme des juges de Burkina Faso, par exemple. Mm. Ils étaient à Washington, où j'étais à Ouagadougou. Mm. J'ai parlé avec des magistrats de Burkina Faso. Et il y avait à Washington des magistrats de Niger. Mm. Et ils posent des questions exactement comme ça. Je n'ai pas une bonne réponse. J'ai une longue réponse, mais pas une bonne réponse. C'est une question d'histoire.
Ben, elle est longue comme toute l'histoire de la jurisprudence constitutionnelle, c'est-à-dire depuis l'affaire des Cherokees, depuis l'affaire oui. Dred Scott. Alors, on ne va pas toutes les rappeler, mais c'est quand même très important. Parfois, la Cour suprême, elle s'est trompée, Stephen Breyer.
Bien sûr, je pose ça, cela comme la question, la grande question. Pourquoi est-ce que le public respecte les décisions quand de poussières sont importantes pour leur vie? Ils ne sont pas populaires de temps en temps. Et nous sommes des êtres humains. Mm-hmm. Ça veut dire que nous pourrions certainement errer. Et si c'est une décision 5 sur 4, il y a 4 qui sont certains qu'ils ont erré. Erroné, ça c'est de la nature de l'être humain. Et mais pourquoi respecter tout ça? Et je dis que c'est une histoire où, comme vous savez, il y avait des époques où les présidents des États-Unis n'ont fait aucune attention. Ils ont aux décisions de la Cour suprême.
Parfois même, ils ont envoyé la troupe contre les décisions de la Cour suprême.
Oui, pour faire marcher les Indiens de Géorgie, qui étaient les propriétaires des terres de Géorgie, pour les envoyer pour que les Géorgiens, qui n'étaient pas Indiens, puissent saisir ces terres. Oui, mais il y avait aussi une guerre civile sur l'esclavage. Il y avait aussi les efforts de faire intégration dans le Sud. Il y avait des gouverneurs qui ont dit que non. Ils ont dit, le gouverneur Phobos, Little Rock, l'année 57, et je pose des questions aux étudiants, la décision pour intégration était faite en 54. Qu'est-ce qui arrive en 55? Rien. Qu'est-ce qui arrive en 56? Plus rien. En 57, enfin, il y avait un juge en Arkansas, en Little Rock, qui a dit qu'il faut intégrer. Mais le gouverneur a dit le contraire. Et il y avait des photos des élèves droits, très courageux, neufs. Ils sont connus comme le Little Rock Nine. Et le premier jour, ils ont essayé d'aller au lycée. Et c'était une impossibilité. Il y avait des manifestations par le White Citizens Council. Il y avait des milices par le gouverneur, commandées par le gouverneur, qui ont empêché ces étudiants d'entrer à l'école. Il y avait des journalistes partout dans le monde qui sont venus et ils ont fait des photographies. Partout dans le monde, on a voyé cette jeune fille, Elizabeth Eckford. tourné, et avec les livres de l'école, et une femme blanche avec une figure de grimace, de horreur à la pensée de cette étudiante entrée à l'école blanche. Mais le président Eisenhower a décidé, enfin. Il était conseillé que si vous intervenez, il vous faudra occuper le Sud, avoir une deuxième reconstruction. Est-ce que vous y êtes préparé pour cela? Mais il a décidé d'envoyer les soldats, le 101e division des paras, les mêmes qui ont libéré les Français. À Normandie.
Ce qui avait une puissance symbolique, bien
oui,
sûr.
Oui, absolument. Et tout le monde aux États-Unis savait très bien qui étaient le 101e division. C'était eux qui étaient parachutés par les clochers.
C'est ça, de Sainte-Mère-l'Église, les Français s'en souviennent, bien sûr.
Oui, les parachutes étaient accrochés aux clochers où ils étaient fusillés par les Allemands, etc. Tout le monde savait. Mais 1000 sont allés à Little Rock, 1000, ils ont fait des escortes pour les étudiantes noires pour faire entrer à l'école. Mais ce n'était pas la fin. L'année dernière, ils ont essayé de ségréger encore. La Cour suprême a dit non, il faut intégrer. Et tous les 9 juges ont signé cette opinion. Oui. Mais ils sont 9, ni armes, ni bourses. Et même les juges, peut-être qu'ils sont 1000. 1000, mais il y a 2000, 3000 personnes et il y a toutes ces milices, etc. Que faire? Et le gouverneur a fermé les écoles. Fermé. Personne n'était éduqué. C'est grand intérêt de lire ce qu'on a écrit après de la vie de ces étudiantes. Blancs et noirs, difficiles.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Oui, ils sont devenus. Ils manquaient de l'éducation pour un an, difficile. Mais cela ne pouvait pas durer. Une autre autorité était élue. Ils ont réouvri les écoles et c'était le moment de Martin Luther King, de Freedom Riders. Bus boycott et on a commencé il fallait peut-être 10 ans, 20 ans jamais fini, mais je veux expliquer à ces magistrats de Togo ou d'Afrique n'importe où, ce n'est pas les avocats, ce n'est pas les magistrats qu'il faut convaincre. Il faut convaincre les personnes des villages. Allez, les avocats, au village. Allez à la public et essayez d'expliquer ce qu'ils font les magistrats, ce qu'ils font les avocats, le barreau, ce qu'il fait l'État de droit. C'est pourquoi il est dans leur intérêt d'avoir un État de droit qui est le contraire de l'arbitraire.
Mais alors, quelle est la différence entre la popularité que cherche l'homme politique, le sénateur, le président, pour être élu, et la confiance que cherchent les juges? Comment garder, comment conquérir la confiance du peuple? Comment garder la confiance du peuple? Est-ce que ça veut dire, Stephen Breyer, que quand vous décidez une affaire importante, vous prenez en compte l'état de préparation du peuple? Comment est-ce que vous vous adressez au peuple à travers vos arrêts?
Je crois que, sauf, il y a une petite exception, pas très grande. Et comme d'habitude, l'opinion publique n'a rien à faire avec l'affaire. Rien. Parce que si l'opinion publique a affecté l'affaire, pourquoi avoir les juges? Donc, et certainement, si je sais que le public a un grand intérêt dans une certaine affaire, cela affecte le moyen d'écrire l'opinion. je dois être absolument clair.
Et
je dois écrire une manière qu'une personne qui n'est pas avocat le comprenne, exactement le raisonnement, la motivation. Mais j'ai fait une petite exception. Je ne dis pas petite au point de vue d'importance, mais je veux, il y a très peu d'affaires. Je dirais, quand la Cour suprême tranchait, après qu'il tranche, l'affaire d'intégration raciale, il fallait un certain sens de la politique pour faire accepter, pour faire marcher cette décision. Par exemple, on n'a pas tranché l'affaire sur l'intermariage d'une blanche et d'un noir qu'après, peut-être 10 ans, après, ils ont décidé pas encore. Parce qu'il a ce pouvoir, la Cour suprême, de décider que trancher. C'est une discrétion à peu près absolue. Donc, ils ont fait des décisions où, comment, avec quelle vitesse. Et maintenant, il y a des historiens qui débattent le sujet. Ils pensent peut-être dans tel ou tel aspect, la Cour suprême avait tort. Il aurait dû dire tout de suite, il faut intégrer. Mais ça, c'est un débat d'historiens. Comme d'habitude, les magistrats n'ont aucune idée, vraiment, de ce qu'ils vont dire les historiens et l'histoire de leur décision.
À qui vous pensez quand vous écrivez un jugement, Stephen Breyer? Qui vous avez dans la tête? À qui vous vous adressez quand vous écrivez?
Comme en France, comme n'importe où, il y a des auditoires différents, n'est-ce pas? Il y a l'auditoire des autres juges, des autres magistrats. Il faut qu'ils comprennent la décision pour qu'ils puissent le suivre, appliquer. Oui. Les avocats, le barreau, absolument nécessaire qu'ils peuvent le comprendre et aussi expliquer à leurs clientes le sujet et que le raisonnement, la motivation est solide. Et, mais aussi, en certaines affaires, le public général. Et on peut espérer qu'une une personne qui n'est pas avocat ni juge, il y en a aux États-Unis. C'est une population de 310 millions et vraiment 309.
Même s'il y a beaucoup de lawyers.
Oui, mais 309 millions de ne sont pas des avocats. Et donc, il faut qu'une personne qui veut passer un certain... dévouer un certain effort, peut comprendre.
Vous avez, il y a une citation de Shakespeare que vous aimez bien, c'est dans Henri IV de Shakespeare, c'est la fameuse question de Hotspur.
Mais ça, c'est le sujet dont...
Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs cette citation?
Oui, Hotspur, que... c'est dans Shakespeare. J'ai expliqué que comment Hamilton a pensé que le judiciaire, c'est le plus faible. Mais il n'a pas posé cette question. C'est la question des personnes de Togo. C'est la question des personnes de Burkina Faso. La question d'Afrique, d'Asie, c'est la question de l'état de droit. La question, c'est la suivante. La pièce, Hotspur, qui est anglais, fait des échanges avec Owen Glendower, de Pays des Galles. Et les Gallois sont toujours des mystiques en Shakespeare. Et il dit, Owen Glendower, je peux appeler les esprits du profond de la mer, des abîmes de la mer. Et Hotspur, qui est l'anglais pratique, il dit, et moi aussi, et tout le monde le peut. Mais est-ce qu'il vient quand vous les appelez? Ça, c'est le problème pour l'être. Donc, c'est la question que l'histoire donne une réponse.
Et la Cour suprême des États-Unis a contribué, dans le fond, vous nous avez beaucoup parlé de l'intégration des Noirs, mais on pourrait dire que tout le travail de la Cour suprême, à vous lire, Stephen Breyer, c'est un travail d'intégration successif, de définition à chaque fois de l'Amérique. Oui, l'Amérique comprend les Indiens. Oui, l'Amérique comprend les fils d'esclaves, met fin à l'esclavage. Oui, elle doit intégrer les minorités. Et aujourd'hui, on a le même mouvement avec les homosexuels, avec des gens qui sont différents et qui réclament à avoir les mêmes droits, la même égalité.
Oui, et nous avons des affaires, nous avons tranché deux affaires. Première, on peut le décrire par la décision que le gouvernement fédéral ne peut pas discriminer contre les homosexuels. Et il y avait une autre affaire en Californie, il a dit pour certaines raisons que l'État de la Californie doit avoir le mariage entre les homosexuels. Mais cette affaire, nous n'avons pas tranché sur le mérite. Donc, c'est la situation de ce moment.
Voilà, parce qu'il y a un mot que vous aimez bien, ça nous rappelle ce que vous disiez au début de cette série d'entretiens, c'est dans le fond, un pays, sur les questions morales, elle entretient une immense conversation. Et il y a un moment, il faut attendre que la conversation soit mûre. Il faut qu'elle ait suffisamment produit ses effets pour que la Cour intervienne et qu'elle consacre, en quelque sorte, qu'elle mette un terme à cette longue conversation. Vous sentez que sur la question du mariage de gens de même sexe, la conversation n'est pas arrivée à son terme. Ce n'est pas mûr encore pour trancher.
Ça, c'est une question, j'hésite à répondre. Parce qu'il est à peu près certain, pas certain, mais peut-être, que nous aurons tranché ces affaires, que nous n'avons pas encore tranché. Et la raison que les juges, comme d'habitude, ne font pas des commentaires sur une affaire qui arrive, c'est que quand une affaire arrive, une décision est actuelle. La décision, de temps en temps, n'apparaît pas comme on pense qu'il va apparaître avant. Une cocktail party, on fait des avis, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand une décision est actuelle, on lit des mémoires, on entend des arguments sur les deux côtés et on y pense, on le considère sérieusement. Et après toutes ces procédures, on tranche l'affaire. Donc, il vaut mieux de ne pas faire des commentaires d'avance.
Je ne vous obligerai pas donc à préjuger cette affaire.
En oui, tout cas... parce que une personne aime être consistante bien avec sûr. Ce qu'il dit avant.
C'est même
il vient de ne pas dire quelque chose.
C'est même la définition même de l'intégrité. Stephen Breyer, merci beaucoup. Bonsoir.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Antoine Garapon rencontre Stéphane Breyer. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent Lucas et Marc Garbanès, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre d'Antoine Garapon avec Stéphane Breyer.